Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais aujourd'hui vous parler de la vertu de pureté chez les jeunes. Don Bosco en parlait beaucoup, c'était un souci constant de sa part, parce que, hélas, beaucoup de jeunes tombent dans l'impureté. La situation des jeunes de Saint Jean Bosco n'était au fond pas très différente de celle des jeunes de notre époque. Je vous dis cela parce qu'il ne faudrait pas croire que l'impureté soit un vice propre à notre époque contre lequel nous sommes ou nous serions désarmés. Une sorte de fatalité. Bien sûr, à notre époque, les tentations sont multipliées par 10, si ce n'est plus. Mais déjà, à l'époque de Saint Jean Bosco, beaucoup de jeunes tombaient dans l'impureté. Or, justement, grâce à Saint Jean Bosco, un grand nombre d'entre eux retrouvaient l'état de grâce et même parvenaient à une vie sainte. Et par conséquent, aujourd'hui encore, si on en prend les moyens, d'abord, les jeunes peuvent ne pas tomber dans l'impureté, parce que ce n'est pas une fatalité, et ensuite, ceux qui sont tombés peuvent en sortir et retrouver l'état de grâce aussi facilement que les jeunes de Saint Jean Bosco. Tout d'abord, il faut bien se rendre compte et être persuadé que l'impureté n'est pas une fatalité. Ce serait protestant de le croire. Dieu n'a pas fait du péché une fatalité. Or, hélas, on trouve aujourd'hui beaucoup d'éducateurs qui considèrent que l'impureté est une fatalité, qu'on n'y peut rien, que c'est comme cela, que cela passera avec le temps. On trouve également beaucoup de confesseurs, c'est triste à dire, mais c'est vrai, qui ne prennent pas les moyens de cultiver la vertu de pureté, et probablement parce que, tout d'abord, ils n'en ont pas vu l'importance primordiale. Saint Jean Bosco l'appelait, avec beaucoup d'auteurs chrétiens, la reine des vertus. Et puis parce que ces confesseurs, sous prétexte d'indulgence, sont d'une faiblesse extrême envers les jeunes. L'impureté est d'autant moins une fatalité qu'elle ne survient que si elle a d'abord été précédée par la désobéissance, la vanité, l'irrespect envers les parents et les éducateurs, du moins la plupart du temps. En effet, saint Ignace, dans ses exercices spirituels, à la méditation des deux étendards, dit que le premier vice qui entraîne les autres, c'est l'amour des biens matériels, des richesses extérieures. Aujourd'hui, hélas, on fait des richesses à 2 sous. Cela entraîne la vanité. La vanité entraîne l'orgueil. Et de là, dit-il, tous les autres péchés. Et vous voyez que saint Ignace ne nomme pas l'impureté. Elle est dans tous les autres péchés qui suivent l'orgueil. Or, l'orgueil du jeune, c'est principalement la désobéissance. Comme l'humilité du jeune, c'est principalement l'obéissance. La preuve que l'impureté n'est pas une fatalité, c'est que Saint Jean Bosco fit un sermon sur l'importance de conserver l'innocence baptismale, c'est-à-dire de veiller à ne jamais tomber dans le péché mortel, et il n'aurait pas fait ce sermon si cela avait été impossible. Certes, cela est rare, mais je vous ai dit que Saint Jean Bosco avait été envoyé par Dieu pour humilier le démon là où il se sent fort, alors que, avec le monde moderne, il se croit même très fort, l'humilier non seulement en lui arrachant des âmes, mais en faisant des saints avec des moyens déconcertant de simplicité, dans la joie, alors que lui, le démon, déploie des moyens d'une puissance matérielle extrême. Je suis persuadé qu'à notre époque de grande impureté, il y a des enfants, des jeunes, des adultes, à qui Dieu donnera, ou a même déjà donné, une très grande vertu de pureté, donc de chasteté, c'est la même chose, justement pour humilier le démon et pour faire briller sa gloire. Une remarque avant de poursuivre le sermon, il y a des tempéraments qui sont plus portés vers l'impureté que d'autres, c'est vrai, mais cela ne nous intéresse pas. Je ne vous ai encore pas fait de sermon sur l'idiotie de l'analyse des tempéraments, si je crois que j'en ai fait un il y a longtemps, à propos des passions. Quel que soit le tempérament, l'impureté n'est jamais une fatalité. Il y a même des tempéraments portés à l'impureté qui, à cause de cela, vont devenir des jeunes très purs, comme Saint François de Sales, par exemple, était porté à la colère, et c'est pour ne pas tomber dans ce travers de son tempérament qu'il est devenu un saint très doux. Il y a évidemment des jeunes dont le tempérament est porté à l'impureté et qui, par amour de Dieu, vont se méfier d'eux-mêmes et ne tomberont jamais dans le péché. Et il y a, à l'inverse, des jeunes qui n'étaient pas portés par leur tempérament à la sensualité et qui, faute de bonne éducation, vont tomber très 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 profondément, et certains d'ailleurs n'en sortiront pas. Je vous dis cela parce que si vous constatez chez l'un de vos enfants une propension à la sensualité, il faudra être vigilant bien entendu, mais vigilant également pour les autres, et encore une fois, il n'y a aucune fatalité. Le premier moyen de préserver ou de retrouver la pureté par les enfants, ce doit être une préoccupation primordiale des parents. Nous avons vu dans un sermon que l'autorité et le pouvoir ont été donnés aux parents à cause de la faiblesse des enfants. Or, ce domaine de la pureté est un point sur lequel les enfants sont particulièrement faibles. Par conséquent, les parents ont une responsabilité particulière pour y veiller. Je ne dis pas que les parents doivent être inquisiteurs. Es-tu chaste, n'es-tu pas chaste, as-tu fait ceci, n'as-tu pas fait cela? Ça, c'est le meilleur moyen de les inquiéter et puis de les troubler. Non, la formation à la pureté se fait très naturellement, sans difficulté, et il n'y a aucune raison de s'inquiéter plus là-dessus que sur le reste. La première condition de la part des parents pour veiller à la pureté de leurs enfants, c'est une grande pureté chez eux-mêmes, les parents. D'abord parce qu'on transmet difficilement ce qu'on n'a pas. Deuxièmement parce que si les parents n'apprécient pas la reine des vertus, ils n'en verront pas l'importance et donc ne s'en préoccuperont pas chez leurs enfants. Donc une grande pureté chez les parents. Je sais que je remue un couteau dans la plaie, que, hélas, beaucoup de parents n'ont peut-être pas été formés, se sont reconnus faibles, on leur a trop dit que le mariage était un remède miracle à la concupiscence, et puis ils ont découvert que le mariage, sous cet aspect, peut quelquefois être un incendie. Mais il en est pour les parents, même ceux qui sont tombés, comme pour les jeunes qui sont tombés, il n'y a aucune fatalité à rester dans le péché. Il est très facile d'en sortir, surtout avec l'aide de la Très Sainte Vierge. Je disais une grande pureté chez les parents, on ne triche pas avec les lois du mariage, donc aucune contraception. On fuit les méthodes dites naturelles de régulation des naissances qui ne sont qu'une contraception hypocrite. on cultive la chasteté. Le mariage est une école de chasteté, si on veut bien y faire attention. On cultive la chasteté en appliquant les recommandations de saint Paul, des périodes de chasteté courtes au début, pour ne pas être tenté, et puis un petit peu plus longues après. L'Église, il n'y a encore pas très longtemps, avant Jean 23, recommandait le jour du mariage aux époux de conserver la chasteté complète, les jours de fête, et notamment le carême. Si les parents ont perdu la chasteté, ils doivent la restaurer. J'en viens maintenant aux moyens de préserver la pureté. Il faut bien vous dire, mes bien chers frères, que les moyens de préserver la pureté sont les mêmes moyens que pour former à la vie chrétienne. Tout d'abord parce que, je vous l'ai dit, la plupart du temps, l'impureté n'est que la suite de péchés de désobéissance, de vanité, d'irrespect envers les parents et les éducateurs, d'irrespect envers Dieu aussi. Et donc ça ne servira à rien de focaliser sur la pureté. Certes, quand le péché d'impureté survient, il faut le prendre très au sérieux, mais comme on doit prendre très au sérieux les péchés de désobéissance, les péchés d'irrespect, les péchés d'orgueil et de vanité. J'ai lu le récit suivant d'un fils de famille qui, grand, 20 ans, 21 ans peut-être, rentre à la maison pour voir ses parents. Le soir, lorsque toute la famille se met à genoux pour le chapelet, ce petit monsieur estime que ce n'est plus de son âge de se mettre à genoux, il se met derrière. Sa maman constate cela, elle se lève et à son grand gaillard, elle donne une paire de gifles en lui disant « Qu'est-ce que c'est que ça ? Viens t'agenouiller pour dire le chapelet. » Cela montre que on doit prendre très au sérieux ce genre d'irrespect parce que c'est de là que part le reste. Il suffit donc de reprendre la liste des moyens que nous avons exposés dans les sermons précédents. Premier moyen, l'amitié avec Jésus-Christ. Cette amitié se développe dans la confession et la communion. Deuxièmement, amitié avec Marie. Cette amitié se développe par les efforts qu'on peut faire pour lui plaire, par les actes qu'on peut lui offrir, par la prière et principalement par le chapelet. Troisième moyen, la joie. Je ne vous ai pas fait un sermon strictement sur la joie, mais on voit bien que tout Saint Jean Bosco, c'est la joie. En tout cas, la joie est très importante. L'amitié avec le prêtre, et particulièrement avec le confesseur. La confiance envers les parents et les éducateurs. Tout dire à ses parents. Je ne vous ai pas fait un serment à vous, les adultes, mais j'en ai fait un aux jeunes, aux adolescents. Tout dire à ses parents. Quand je dis tout dire, c'est tout dire. Et pour arriver à cela, de la part des parents, il faut évidemment qu'ils aient cultivé une grande confiance de leurs enfants envers eux. L'amour de la croix, la lecture de la vie des saints, etc. Un moyen plus particulier encore que, c'est un peu aussi pour tous les vices, hein, qu'il faut veiller à cela, la fuite des occasions. Saint Jean Bosco mettait en premier les mauvais camarades, qui sont la cause d'abord de désobéissance, de mensonges, et c'est à partir de là que viennent les impuretés. Il n'y a qu'à lire le récit chez Dominique Savio, lorsque des jeunes l'invitent à se baigner. Ça commence par une désobéissance, enfin ils essayent de le pousser à la désobéissance. Dominique ne cédera pas. Il après ça a caché les choses, l'hypocrisie. Dominique leur répond, oui, on commence comme ça, et puis après ça, on court un danger pour la vie, et puis on se tient mal, on a des tenues qui sont pas correctes, et puis ça finit souvent dans l'impureté. Le choix des camarades, dont Bosco y revenait très très souvent. On doit éliminer tous les mauvais camarades, laisser de côté les camarades médiocres et chercher les bons camarades. Sauf lorsqu'on fait de l'apostolat, à ce moment-là, on va vers des médiocres pour les rendre bons. Mais c'est de l'apostolat. Dans la fuite des mauvais camarades, il faut inclure les mauvais amis des parents. Vous avez des gens qu'il n'est pas digne de recevoir en famille. Bien sûr, les adultes se disent « Oh, ce genre de conversation, ce n'est pas grave, c'est de la gauloiserie, nous savons faire la part des choses. » Oui, mais les enfants ne savent pas faire la part des choses, ils risquent d'entendre, et même souvent ils entendent des choses anormales. Et puis, il y a un état d'esprit qui se répand à partir de là. Et puis, dans la fuite des occasions, évidemment, Internet et les téléphones portables. C'est devenu un drame chez nous. Pourtant, c'est simple, il suffit de dire non. Nous avons au prieuré de la Villeneuve, Notre-Dame du Christ III, un seul téléphone portable pour toute la communauté, téléphone qui est devenu nécessaire pour acheter les billets de train à cause des cartes bancaires qui envoient des codes. Pour le reste, un téléphone 9 touches suffit largement. Et si votre enfant ne comprend pas pourquoi vous dites non pour le téléphone portable, c'est le moment d'utiliser le pouvoir et non pas l'autorité. Le pouvoir, c'est comme ça. Je commande, tu ne comprends pas, tu dois m'obéir. Si l'enfant est bien disposé, des grands et encore, quand ils ont déjà obéi, alors on leur explique, mais on n'a même plus besoin d'expliquer parce qu'ils comprennent tout seuls à ce moment-là. Non, c'est non. Et puis, un des remèdes à l'impureté, mais même ce remède-là est un remède général pour toute l'éducation, c'est de penser aux autres et pas à soi, d'où les œuvres de miséricorde et le dévouement. L'impureté est évidemment un gros égoïsme, et penser aux autres est évidemment un remède. Dernière partie du sermon, les moyens de restaurer la pureté chez ceux qui l'ont perdue, hélas. Alors, premier moyen, il faut faire avouer. Les parents ont le droit et même le devoir de connaître les fautes de leurs enfants, et les enfants ont le devoir d'avouer leurs fautes aux parents, parce que sinon, les parents ne peuvent plus les guider. Il n'y a plus aucun exercice possible, ni de l'autorité, ni du pouvoir des parents. Je ne sais pas pourquoi, ou plutôt je sais trop bien pourquoi, on entend souvent dire, hélas, que le jeune n'est tenu d'accuser ses péchés qu'au confesseur. Mais si les parents posent des questions ou cherchent à savoir, le jeune doit leur dire la vérité, quitte à dévoiler des gros péchés, parce que le premier éducateur du jeune, ce sont les parents, ce n'est pas le confesseur. Une fois que les péchés d'impureté sont avoués, les moyens de restaurer la pureté sont exactement les mêmes que pour la conserver. Je terminerai ce sermon sur l'importance de l'enthousiasme. Mais la joie est d'abord un enthousiasme. Enthousiasme de servir Dieu, d'aimer la Sainte Vierge, l'amitié avec Jésus, l'amitié avec Marie. L'enthousiasme de faire le bien, de faire plaisir à ses parents, d'obéir à la Sainte Vierge qui demande à Fatima prière et sacrifice pour la conversion des pécheurs. Grande confiance à ce propos de la part des jeunes, et leur dire que mieux vaut avouer une faute que de rester avec une pierre sur la conscience, parce que ce genre de pierre emmène en enfer. Que Dieu vous bénisse par l'entremise de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.